Bonjour à vous du groupe 16, entrée de serre consacrée à la publicité. Voici mon commentaire. Beaucoup de choses intéressantes, parfois pas très bien structurées. Voilà, je vais vous expliquer en gros. C'est-à-dire que vous avez respecté les consignes de relecture et donc tout ça est OK. L'historique me paraît clair, avec une difficulté, c'est que vous donnez la quantité d'informations en octets, en gigaoctets, en zétaoctets, ce qui effectivement fait des nombres colossaux, mais à la fois ça ne dit pas grand-chose au lecteur qui va consulter votre glossaire. Ce qui l'intéresse et ce qui est parlant pour lui, c'est une unité de mesure qu'il connaît et qu'il peut visualiser. Et donc vous auriez donné l'équivalent de l'information en nombre de sites web et en nombre de pages disponibles aujourd'hui sur Internet et dans le réseau Internet. Peut-être ça aurait été vraisemblablement plus parlant que ces mesures simplement de quantité d'octets. Alors, il faut que vous n'oubliez pas que ce glossaire est un document de formation, un document d'information, c'est un document de référence normalement pour des usagers qui sont peu informés d'un certain nombre de concepts. Et si vous leur parlez avec des valeurs chiffrées qui pour eux ne représentent rien, cette information est complètement perdue et donc elle n'est pas pertinente et donc elle va tomber dans le gouffre de l'infobésité. C'est une surinformation et d'autant surinformation qu'elle est non pertinente et non significative pour les personnes auxquelles vous vous adressez. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est que vous citez, vous renvoyez, vous référencez les auteurs directement dans le texte, et ça c'est bien, vous le faites en général assez bien, comme pour Liman et Varian. Donc quand vous citez le titre d'un ouvrage comme L'anatomie de la mélancolie de Burton, vous devez mettre le titre en caractère italique et vous devez supprimer les guillemets. Ça, c'est des petites conventions. Mais voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour l'historique qui est bien construit, sauf à mon avis, cette erreur sur la preuve que vous voulez donner, la preuve tangible de l'infobibliothèque, que vous voulez donner à votre lecteur avec une unité de mesure dont il ne perçoit pas bien les choses. C'est comme si on vous disait que vous allez gagner, ou bien quand on parle de chiffres d'affaires, de banque, je sais pas, de dizaines ou de centaines de milliards de dollars, ça ne veut rien dire. Pour les enfants, ce qui veut peut-être dire, c'est ben voilà, ce serait le prix de. C'est comme s'ils possédaient tout un quartier d'une ville, autant de rues, autant de maisons dans chaque rue. Ça, c'est la concrétisation d'une information qui fait sens pour les gens, quoi, voilà. Alors, dans vos définitions, vous donnez pas mal de définitions que vous mettez pas vraiment à plat. Et ça, c'est bien parce que vous les structurez. Vous les structurez puisque les trois premières concernent le domaine de la vie de tous les jours. Après, vous auriez mis des sous-titres d'ailleurs, ça aurait aidé, hein. L'infobésité dans la vie de tous les jours. Après, on a le brouillard informationnel. L'obésité est définie comme une pathologie de surcharge informationnelle, syndrome de débordement cognitif ou anxiété de l'information. Là, on ne sait plus très bien si les choses sont. Vous dites que c'est plusieurs chercheurs, mais on ne sait pas très bien quel serait le sous-titre et qu'est-ce qui regrouperait ces trois définitions-là. Vous analysez bien au fond les connotations médicales, et puis vous donnez votre propre définition. Vous insistez sur le problème de la pathologie. Vous dites que c'est vraiment une maladie du XXe siècle, du XXIe siècle, donc vous prenez vraiment position. Et vous mettez en lien avec le stress et le débordement cognitif. Voilà. Ça, c'est votre définition. Votre définition, d'ailleurs, elle mêle des éléments de définition qui sont objectivables avec des éléments qui sont des prises de position un peu subjectives, qui sont défendables, mais vous mettez les deux sur le même pied. Et ça, c'est peut-être un peu dommage dans un article de nouveau de référence. Je formulerai autrement. Et puis alors après, ce qui me. Bon, c'est bien, vous avez mis effectivement une image, une représentation visuelle. Vous notez la source de cette représentation visuelle, c'est bien. Par contre, vous auriez dû la titrer, mettre une légende, figure 1, ou bien voilà. Mais c'est de nouveau un détail de mise en page. Quand la mise en page, je trouve que vos titres, vos sous-titres en vert fluo à l'écran sont extrêmement peu lisibles sur un fond blanc. Surtout en petite taille comme notre définition, là c'est à la limite de la lisibilité. Je veux bien que je devienne sans doute que ma vision s'amenuise avec le temps, mais ergonomiquement, vert fluo sur du blanc, c'est pas terrible. Alors après, ce qui rend votre travail plus faible, c'est effectivement les enjeux. Dans les enjeux, vous ne dites rien. Vous parlez des enjeux au niveau général, au niveau sociologique, au niveau de l'organisation du travail, mais vous manquez complètement la relation de l'infobésité et de l'apprentissage. En quoi ce problème de surinformation est un problème pour les étudiants, pour leur recherche? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est une maladie? Comment la guérir? Ça veut dire comment leur apprendre à chercher. Il y a eu une séance qui a été consacrée dans le cours aux compétences informationnelles qui traitait de cet aspect-là. C'est comme si vous n'y aviez pas assisté. Et ça, je trouve vraiment regrettable. Et je pense que c'est vraiment la lacune majeure de votre travail. Voilà. Pour la bibliographie, ben, globalement, c'est bien fait. C'est dans l'ordre alphabétique. La seule chose que j'aurais faite, moi, c'est de séparer bibliographie et webographie. Je me serais arrangé pour rendre tous les liens cliquables. Je ne sais pas pourquoi certains de vos liens ne sont pas cliquables. Ça doit être une erreur ou une. Bon. Alors, vous avez parfois des liens qui sont extrêmement longs et qui viennent d'un moteur de recherche. Vous auriez mieux fait, vraisemblablement, d'aller chercher directement le document sur le site original parce que rien ne vous donne. Vous n'avez aucune garantie que le moteur de recherche vous redonne la même référence la fois suivante. Il se peut que la référence ait disparu ou que le moteur de recherche ne le retrouve pas ou ait changé. Vraiment, la règle de base, c'est de dire quand je mets une ressource, j'essaie de trouver le document original. Et si c'est un document en ligne, j'essaie de retrouver le document original et de mettre l'URL originale plutôt que l'URL que donne le moteur de recherche. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront dans vos travaux futurs. Et puis voilà, je vous remercie pour le travail que vous avez fait tout au long de cette année.